pense que c'est intéressant de repartir de cette, de ce schéma du regretté Gilbert Long, où on a un écosystème. C'est un écosystème, il y a des personnes hein, qui vivent dans l'écosystème. Donc c'est un système socio-écologique. Hein. C'est pas une zone protégée, lointaine, etc. Hein. C'est vraiment un écosystème. Là, il s'agit d'une forêt. Cette forêt produit du carbone. On a parlé tout à l'heure de la tyrannie du carbone. Il y avait la tyrannie de la monnaie, la tyrannie du carbone. Ça, c'est bien vrai. Et je pense que la formule qu'on essaye de trouver pour les comptes en écus, c'est pour essayer de relativiser cette tyrannie du carbone, qui a bien été vue, d'ailleurs, si vous connaissez le programme RED, qui est un programme de financement des forêts tropicales, qui a été lancé par les Norvégiens. Maintenant, c'est la FAO qui en a la direction. Ça veut dire, je ne sais plus, réduction des émissions des forêts et des forestations. Au début, l'idée, c'était de payer pour du carbone. Puis ils se sont aperçus qu'il y allait avoir... C'était pas aussi simple que ça, parce que d'abord, il y a des pays qui allaient tricher, qui allaient planter quelque part et couper ailleurs. Et puis ensuite, ils ont commencé à parler de fuite écologique. La fuite écologique, ça veut dire on plante, mais on dégrade la biodiversité. Il y a même un site au Brésil qui parle de, je traduis librement, de fuite humaine. C'est de perte de capital humain du fait du carbone. Donc, et je pense que si on prend chaque élément de l'écosystème séparément, on va au-devant de problèmes. C'est vraiment fondamental d'essayer d'intégrer. Ce qu'on essaie de faire avec ces écus, dont je vais reparler, c'est d'avoir une mesure simple qui intègre le fait que le carbone n'existe pas tout seul et qu'une mesure en carbone tout seul peut être très trompeuse. Donc là, on a à peu près toute l'histoire qui est racontée. Hein. On a donc les effets globaux, ça c'est du bien public, hein, typiquement. On a des productions végétales annexes qui peuvent être du bien commun. Hein. Si la forêt est ouverte, les gens peuvent aller cueillir des champignons, des fraises, des bois, je ne sais pas ce qu'on peut cueillir d'autres. Il y a des valeurs vraiment... De culturel, de promenade. On peut même faire d'autres activités dans la forêt, puis ouvrir un camping. Hein, et c'est donc une activité de service. Donc ce qu'il faut, c'est arriver à rendre compte de tout ça. Hein, parce que si on coupe en petits morceaux, on va trouver des solutions, mais qui ne vont pas marcher longtemps. C'est la difficulté. Et jusqu'à présent, donc, on avait des statistiques, il y a des réseaux de mesures, il y a beaucoup de données, et on ne sait pas très bien comment les intégrer. Donc les comptes du patrimoine écosystème, c'est essayer d'intégrer ça, d'intégrer la dimension marchande, la dimension non marchande, biens publics, les biens gratuits, hein, et sans chercher forcément à mettre un prix sur ces biens gratuits. Alors là, il y a une formule que j'aime bien, qui est un petit peu inexacte, mais qui est quand même intéressante. C'est une économiste de la, c'est une professeure d'économie de la Columbia University, professeure en économie mathématique, et qui depuis longtemps parle du fait que les écosystèmes sont des biens publics produits de manière privée. Elle a montré ce caractère dual, hein, qui est ignoré par beaucoup, y compris par beaucoup d'écologistes. Vert, hein, de green écologique qui mettent des prix sur les services tant et plus et qui cherchent à tout ramener à une approche privée du bien public, ce qui est à mon avis contestable. Alors il y a une petite erreur parce qu'on produit pas les écosystèmes à proprement parler. Hein. On peut favoriser les conditions de leur reproduction, mais les écosystèmes, la biodiversité, c'est produit par la nature. On va peut-être mieux parler de reproduction, mais bon. Et donc les deux caractères, cette dualité des caractères, c'est intéressant parce que par certains aspects, c'est des biens privés qui sont détenus, gérés pour faire de l'argent. Et puis ce sont des biens publics qui sont non exclusifs, non rivaux, hein, qui doivent être, dont l'accès doit être garanti à tout le monde. Ce qui veut dire que quand un acteur particulier, hein, un acteur économique, mais ça peut être une administration publique, se comportant comme un acteur, dégrade l'écosystème, parce que Michel Serres parlait de ses origines du néolithique. Et effectivement, tout a commencé au néolithique, quand l'homme a décidé qu'il y avait des plantes qui étaient bonnes, par exemple des céréales, et qu'il y avait d'autres plantes qui devenaient mauvaises parce qu'elles empêchaient de pousser les céréales. Donc quand on utilise l'écosystème, on a tendance à utiliser un ou deux ou trois des services de l'écosystème. Et si on l'utilise sans précaution, bien entendu, en tirant le bénéfice du service qu'on utilise, on dégrade les autres. C'est la règle depuis toujours. Et donc, quand cela se produit, hein, quand le paysan dégrade la fertilité du sol, qui est un bien public, quand le forestier gère sa forêt de telle sorte que la régénération de la forêt n'est plus garantie. Vous voyez au Canada comment ils coupent leur forêt par des surfaces énormes à chaque fois. Ou quand on empêche l'écosystème, les rivières, d'assimiler la pollution, hein, qui est une de leurs fonctions importantes. Quand on détruit la beauté des paysages. En fait, on crée une dette. C'est une dette vis-à-vis des autres, c'est une dette vis-à-vis des générations futures. Ça peut être une dette vis-à-vis d'autres pays, hein, parce qu'il y a, de la dégradation qui est incorporée dans ce qu'on importe. Quand on accepte de payer pas cher des produits qui viennent de pays où les choses ne sont pas soutenables, eh bien, on consomme de la dégradation du capital écologique, aussi de la dégradation du capital humain en général en même temps. Ce qui est bien connu, hein, qui n'est pas une idée complètement abstraite, c'est bien connu. C'est très bien compris, je vais être provocateur, en dehors de l'académie, hein, c'est compris dans l'épicerie du coin, où les gens trouvent des produits fair trade, hein, café Malongo, je ne fais pas de publicité, mais hein, commerce équitable, etc. Et les gens payent plus cher, payent spontanément plus cher, il y a des mécanismes qui se sont mis en place. Donc ce n'est pas une idée qui est complètement farfelue, mais qui devrait être intégrée dans la théorie économique un peu mieux. Parce qu'il y a vraiment des possibilités de modifier en profondeur des comportements, simplement en suivant un certain courant de l'opinion publique qui est de plus en plus important. Hein. Si vous regardez dans les grandes surfaces sur les produits équitables qui sont présentés, Max Avelar, Rainforest Alliance, ça c'est de plus en plus. Hein. Donc, c'est ça la toile de fond. Alors, il ne faut pas être complètement négatif. Bien sûr, on se préoccupe des dettes écologiques, on voit que la situation est catastrophique, mais il faut une petite note d'espoir. Hein, il y a aussi la possibilité de voir l'amélioration de l'écosystème. Jusqu'à présent, toutes les incitations économiques, c'est utiliser un service au maximum pour faire de l'argent, et le reste, c'est des externalités. Donc, le reste, on transmet ça aux générations futures. On peut imaginer c'est même pas de l'imagination, parce que ça existe, que quand il y a des actions de restauration d'écosystèmes pour favoriser le développement, le redéveloppement de la biodiversité, on peut imaginer de comptabiliser ces actions et des mécanismes qui permettent une compensation écologique, qui permettent de gagner de l'argent, non pas en détruisant la biodiversité, mais au contraire en favorisant son développement. Donc, oui, pardon.
Sur cet aspect-là, est-ce que l'Union européenne suit, par exemple, comme vous dites, effectivement, lorsqu'un territoire produit des produits insoutenables et crée de la dette,
est-ce qu'on a, avons-nous une idée de la surface de territoire qui atteint un seuil d'irréversibilité? Je mettrai irréversibilité pour un territoire, ça veut dire la durée d'une génération. Est-ce qu'on a une idée? Parce qu'on parle beaucoup souvent de ce territoire qui produit des produits insoutenables, mais on ne connaît pas leur seuil d'irréversibilité.
Alors,
dans le développement durable, en
fait. Oui, non, absolument. Je vais faire une réponse qui n'est pas une réponse. Hein. Ce qu'on essaye de faire avec ces comptes du capital écosystème, c'est précisément d'arriver à observer, à mesurer, et puis ensuite à produire un agrégat qui puisse être utilisé à un haut niveau politique, qui va prendre en compte le fait que l'exploitation des ressources, hein, je parlais hier du surplus, hein, on peut utiliser un surplus, et puis des fois on va plus loin, donc on cherche à le mesurer. Et je vais vous montrer quelques exemples à la fin, pour voir comment on peut accéder à cette information avec ce dont nous disposons au niveau européen, c'est-à-dire les informations qui sont transmises par les pays. L'Europe n'a aucune capacité d'observation, à part les satellites, mais même ce sont c'est une agence séparée. Donc on observe quelques éléments avec les satellites quand même. Hein. On peut arriver à avoir des problèmes sur la biomasse, sur l'eau, par exemple. Hein, ça, on peut le voir. Mais la majeure partie des informations, ce dont vous parlez, c'est quand même des informations transmises par les pays. Hein, et on rencontre certaines difficultés, mais il y a aussi certaines opportunités. Hein, les choses progressent quand même. Donc oui, on cherche à mesurer. C'est bien ce qu'on cherche à mesurer. Vous verrez, il y a une diapositive qui répond en partie à votre question, mais on ne le fait pas dans les termes que vous le mentionnez. Et moi, ce que j'espère, c'est qu'une fois qu'on aura développé ces comptes on aura publié ces comptes au niveau européen, que ça va attirer l'attention du niveau européen et que ça va être mis en production de routine, hein, mais aussi qu'il va y avoir une multiplication d'applications à des niveaux plus décentralisés, des niveaux locaux, où là, on va pouvoir intégrer, bien sûr, davantage de sciences. On travaille avec l'information disponible, donc c'est des comptes très simplifiés qu'on fait, mais le choix, c'est faire ça ou ne rien faire du tout. Donc on a préféré faire ça, tout en sachant très bien qu'il faut après aller à des mesures plus précises, mais toujours avec le même objectif. Hein. Donc, alors un point qui est important, là je parle en tant que comptable, il y a une règle de base de la comptabilité qui est qu'il faut amortir le capital. Hein, quand vous calculez votre revenu à la fin de l'année, si vous amortissez pas le capital, vous allez tricher sur le montant du revenu. Soit vous allez avoir un revenu, donc votre revenu va être en apparence plus important, ça sera une illusion pour vous. Si vous êtes directeur d'une société, vous allez tricher par rapport à vos actionnaires. Ça se fait, hein, on n'amortit pas beaucoup, et puis on fait une émission d'actions en bourse, et à ce moment-là, il y a la société très profitable, le cours des actions monte. Inversement, si vous jouez ce jeu-là, vous devez faire attention, parce que le fisc va vous taxer un maximum. Et donc c'est une variable qui est vraiment fondamentale, et c'est écrit partout. Hein. C'est écrit partout. Si on ne comptabilise pas, si on fait une estimation de la dépréciation du capital, les résultats ne sont pas sincères. Hein, les résultats comptables ne sont pas sincères. Et le problème, c'est que ce n'est pas fait pour le capital écosystème. Donc tout le monde dit qu'il faut le faire, et on ne le fait pas. Donc, et on ne le fait pas pour les entreprises, on ne le fait pas pour les régions, on ne le fait pas pour l'État, on ne le fait pas dans les comptes nationaux. Donc là, il y a quand même quelque chose d'un petit peu paradoxal. Ce qui veut dire qu'il y a un élément de coût des biens et services qu'on consomme qui n'est simplement pas comptabilisé. Et les Max Avelard et tout ça, ils ont bien raison. C'est, à mon avis, c'est tout à fait correct. La consommation finale ne couvre pas l'ensemble de ce qu'on consomme. Une des conséquences de ça, qui dure depuis un siècle, ou en particulier depuis la Deuxième Guerre mondiale, c'est que ça a entraîné des distorsions dans les schémas de consommation. Hein, on se plaint de la société de consommation. On voit bien qu'il y a des choses, une consommation qui n'est pas durable. Mais elle n'est pas durable parce qu'on n'a pas payé le prix pendant 50 ans. Et donc on en subit les conséquences de manière structurelle maintenant dans nos sociétés. Et ça, je pense que c'est un point qui est vraiment important. Et on peut corriger et avoir au moins deux évaluations de la consommation finale au prix des transactions telles qu'elles ont lieu et au prix complet. On pourrait même imaginer que dans les supermarchés, les deux prix soient indiqués. Donc, on fait des comptes en Europe. Donc l'idée, hein, c'est de mesurer quelle est la part des ressources qui est accessible sans dégradation, hein, au fil du temps. Donc c'est le stock et c'est la promesse en même temps. Hein, la promesse est vraiment un objectif essentiel, parce que quand on prélève trop sur le stock, bien entendu, on n'a plus de... quand on a consommé tout le blé, on n'a pas les semences pour semer pour la récolte prochaine. Afin de faire quelque chose et de commencer, vraiment de commencer, de fonder quelque chose, donc on fait des comptes simplifiés pour l'Europe, 27 pays, à partir des données transmises par les États membres. Et c'est des données qui sont transmises à Eurostat. On a parlé de statistiques, de stats agricoles. Les stats agricoles d'Eurostat sont transmises par les pays. Hein. Et quand vous cherchez à avoir des statistiques régionales, parce que nous, on voulait avoir les choses les plus détaillées possibles, vous souffrez. Et on connaît bien Eurostat, et j'ai des relations personnelles avec le directeur général, avec le directeur qui s'occupe des stats agricoles et tout. On a eu l'occasion d'en parler. Les pays ne transmettent pas les choses toujours de manière idéale. La France n'est pas le plus mauvais élève, hein. Faut dire les choses. La France travaille plutôt bien, là, hein, mais en règle générale, c'est pas bon. Alors, c'est très mauvais pour les statistiques forestières, parce qu'on connaît tout sur la forêt en Europe, sauf là où on coupe le bois. Hein. Couper des arbres, c'est pas un problème de gestion des forêts. Hein. C'est secret. Hein. Donc il y a des enjeux politiques de ça. Mais c'est au niveau régional, vous devriez avoir un accès plus facile, à mon avis. Il y a des données qui sont transmises à l'agence européenne. Vous avez 100 000 ou 1 million de fois plus de données ici, à l'agence de, à l'agence de l'eau, aux directions régionales et tout, vous avez un nombre, c'est incalculable. Ce qu'on reçoit au niveau européen, c'est très filtré. Hein, les pays donnent le minimum. Le Centre commun de recherche aussi collecte pas mal de données, notamment sur les forêts et sur les sols. Et puis on travaille aussi avec les données des satellites. L'Agence spatiale européenne nous soutient. Puis bon, l'accès aux données satellites, maintenant, c'est quasiment gratuit. Donc on ne va pas se priver. L'idée, c'est que si on avait commencé par mettre autour d'une table tous les acteurs pour leur dire, voilà, on voudrait faire des comptes du capital écosystème, qu'est-ce que vous en pensez? Dans 50 ans, on y est encore. Donc on a dit, bon, on part du haut, on va faire des choses très simplifiées, de manière à poser la question. La réponse, après, on verra. On fait la réponse la mieux possible, mais il faut d'abord poser la question. Mais notre idée, c'est que une fois qu'on a commencé à poser la question, on provoque, on suscite de l'intérêt. Et ça commence. Hein. On a eu un séminaire en Slovaquie. Les Slovaques veulent faire des comptes. Alors ils vont faire ça. Ils sont très bons en botanique et tout ça. Ils vont faire des choses sûrement très intéressantes. Il y a un projet qui va démarrer. On a déjà eu une première téléconférence en Écosse. Donc là, je ne sais pas si c'est un pays ou une région, l'Écosse, entre les deux. Ils veulent faire un test. Et donc ça, je pense que quand il va y avoir un certain nombre, il va y avoir des tests. Et bien entendu, à chaque fois, on a un modèle qui est le plus simple possible, mais chacune des cellules du modèle peut être développée à l'infini pour recueillir le maximum de connaissances, le maximum de données, et les synthétiser toujours de la même manière pour arriver au diagnostic de la dégradation mesurée en écu. Aussi, on travaille en liaison avec la révision du système de comptabilité économique environnementale de l'ONU. On participe au débat. C'est pas simple. C'est des discussions vigoureuses. Dimanche, je vais au Canada pour une semaine de discussions avec des groupes de travail. Et bien entendu, on se heurte, là en particulier, aux positions traditionnelles dominantes de l'économie, pour qui il n'y a de salut qu'à l'intérieur de l'économie. Hein. Donc on met un prix en dollars ou en écus, en dollars ou en euros partout, et les mécanismes du marché vont fournir les informations nécessaires. Hein. C'est écrit partout, hein, c'est même pas caché, hein, c'est écrit. Et donc là, on propose quelque chose qui est pas orthodoxe du tout, hein, qui respecte pas les cadres de l'équilibre général, etc. Et donc la discussion est chaude. Mais on commence à avoir il y a de l'intérêt. Hein. On n'est pas tout seul là-dessus. Alors dernier point qui est important, quand on veut mesurer la dette écologique, si on veut calculer par exemple la consommation finale au prix complet intégrant la dégradation de l'écosystème, il faut arriver à une évaluation en monnaie. Mais avant d'y arriver, on a besoin d'avoir des comptes physiques. Et si on a une mesure de la dette physique en écu, dans cette unité, on a un instrument politique immédiat. On peut aller directement vers les marchés financiers. Parce qu'une dette, ce n'est pas forcément exprimée en monnaie. Hein, c'est une obligation de rendre quelque chose. Et ça peut s'enregistrer. Si ça peut s'enregistrer, se mesurer, être vérifié, il y a plein de conditions de qualité de la donnée. Mais ça peut être utilisé, par exemple, par des agences de notation qui peuvent regarder quelle est la situation des pays, des entreprises, etc., par rapport à leur dette écologique. Et dire, attention, vous accumulez des dettes depuis 10 ans, vous prenez des risques, il peut y avoir un jour une nouvelle réglementation internationale et vous allez être en faillite parce que vous allez être obligé de payer des choses incalculables. Donc il y a une possibilité d'agir directement avec ça et il y a une réflexion qui, à mon avis, peut être intéressante sur ce point. Donc en gros, comment ça fonctionne de manière la plus résumée possible ? On observe, on cherche à rassembler les données en partant des choses les plus détaillées qu'on peut trouver. Et ces données, on les assimile, parce que c'est commode pour nous, et c'est au niveau européen, je pense que c'est logique, on les assimile dans une grille kilométrique. Donc il y a une grille standard kilométrique définie par INSPIR, la directive sur l'information géographique. Et c'est très important de l'utiliser parce que ensuite vous avez toutes vos données qui sont parfaitement empilées et quand vous voulez faire des calculs de la modélisation, c'est vraiment un plus. Donc ces données de base, c'est tout n'est pas au niveau de la grille. Par exemple, il y a des données sur les rivières qu'il faut avoir au niveau du bassin, du sous-bassin versant. Donc on peut, on va pas avoir tout, mais on a un maximum de données. On a reventilé les statistiques régionales. On a fait une cuisine épouvantable, on l'a fait sur 10 ans. On a reventilé les statistiques régionales agricoles forestières sur la grille kilométrique, en utilisant de la modélisation physique. Ça va susciter probablement des réactions, mais pour moi, c'est des réactions positives. Je pense que là, on a eu raison de le faire, il fallait qu'on le fasse, et c'est une information qui devrait être disponible. Les statisticiens progressent dans ce sens. Il faut produire de plus en plus de données par grille. Donc on produit ces données et on va regarder la dégradation ou l'amélioration. Donc là, ce n'est pas la totalité des comptes, c'est juste une variable importante sur paysagère. Mais vous voyez en gros comment ça fonctionne. Donc on a ces données. Après, on peut les agréger par région, par bassin versant, par pays, par région biogéographique, comme on veut, puisque c'est avec le maille kilométrique, c'est quand même assez fin. Et on va mesurer donc la dégradation, l'amélioration physique, et on établit le bilan des dettes et des crédits écologiques. Et ensuite, on peut commencer à mettre des prix, et ce n'est pas les prix subjectifs qui sont les favoris de la théorie économique néoclassique, les valeurs contingentes. On va interviewer les gens, combien vous êtes prêts à payer pour le maintien de l'ours des Pyrénées. Ouais, ça dépend. Et à partir de là, à partir d'une douzaine de personnes, on calcule une valeur de l'ours. Donc, ce sont des prix observés et c'est des prix de restauration. Et il y a plusieurs éléments qu'on peut calculer. J'ai parlé de la consommation, la consommation du capital écosystème, des coûts non payés. Ces coûts peuvent être intégrés, on peut les soustraire du revenu national, dire le revenu est moins important parce qu'on n'a pas payé tous les coûts. À mon avis, c'est plus intéressant de les ajouter à la consommation finale parce qu'on a immédiatement une variable opérationnelle importante. Mais ce qu'on peut aussi faire, et c'est un peu une réponse à votre question, si on est capable vraiment de mesurer les situations insoutenables, d'identifier là tous les points orange, par exemple. Mais c'est une information très partielle, mais tous ces points orange, c'est en train de se dégrader. Si on superpose ça avec la carte des récoltes, par type de récolte, on va voir pour chaque grand type de récolte ce qui est soutenable et ce qui n'est pas soutenable. Donc on a une indication qui peut être très très intéressante pour juger de la performance de l'agriculture, par exemple. Alors le modèle, à quoi il ressemble ? Alors, première chose, les écosystèmes, ce sont tous les écosystèmes, y compris les villes. C'est pas donc qui vont être décrites avec les mêmes principes, bien sûr, avec des variables qui vont être observées de manière différente, parce que les problèmes sont pas les mêmes. Mais on va toujours vers la même réponse. Donc l'unité de comptable, c'est le système socio-écologique. Je pense que c'est important parce que souvent on parle de l'écosystème, on oublie que on ne sait pas dire grand chose de l'état d'un système si on prend les gens, on leur demande de sortir pendant qu'on fait l'évaluation. Les gens sont dedans. C'est une idée qui a été développée pas mal par toutes les études de résilience, par exemple, se réfère à ça. Ça a été développé par Galopin en Argentine il y a 30 ou 40 ans. Les Japonais ont un même concept, mais très traditionnel, qu'ils appellent Satoyama, qui veut dire quelque chose comme l'agriculture dans la nature, quelque chose comme ça. Et ça, je pense que c'est vraiment un point fondamental. Donc une fois qu'on a l'unité pour laquelle on veut faire les comptes, on a des variables multiples et on va intégrer ces variables. Alors comme on en a beaucoup, on a essayé de ramener ça au minimum. Et le minimum, c'est la biomasse, le carbone. Et c'est important parce que c'est quand même la nourriture, c'est potentiellement de l'énergie. Il y a des gros enjeux sur le carbone à l'évidence aujourd'hui. Il y a l'eau. Parce qu'il ne suffit pas de manger, il faut boire aussi. Et à la fois pour le carbone et pour l'eau, c'est des situations... On a vu hier HNPP, la présentation de Denis Couvet, comment on partage la nourriture et comment on partage l'eau avec la nature. On a le droit de prendre autant que possible, mais il faut laisser la nature se reproduire. Donc ça, on fait les bilans. Et puis on a les services systémiques, qu'on ne va pas mesurer directement, mais qu'on va mesurer l'état de la machine à produire ses services. hein, s'assurer que la machine est en bon état. Donc on va mesurer l'intégrité des systèmes, hein, des paysages, des rivières, des zones côtières. On va mesurer l'intégrité, la biodiversité, pour arriver à un indicateur qui va nous dire comment ça se passe, comment ça évolue. Un point qui est important aussi, que j'aurais peut-être dû mentionner hier, c'est que quand on parle de dégradation, hein, la dégradation, c'est un processus, hein, c'est un changement. Donc quand on fait ces mesures, on peut s'interroger à certains moments pour dire, bon, on va mesurer avec une unité conventionnelle, et puis on va comparer. Bon, le problème, ce n'est pas vraiment de comparer un lac et une forêt. Hein. Le problème, c'est d'avoir la même unité pour décrire la dégradation du lac ou la dégradation de la forêt. Hein, on décrit des changements, et là, les problèmes sont peut-être moins importants. Et la manière dont on le fait, donc on part des données existantes, des données qui sont vérifiables. Ça, c'est fondamental de partir des données vérifiables, parce que si on arrive à des conclusions, il va y avoir des conséquences pratiques pour les gens. Donc il faut que les gens puissent dire non, vous vous êtes trompé, etc. Si, en imaginant que le système soit mis en place au niveau européen, ça veut dire qu'il y a des mécanismes d'appel, parce qu'on va noter des régions, hein, on va le faire tout de suite, hein, on va noter des régions, et il faut que les régions puissent dire, attention, vous avez pris des données qui ne sont pas les meilleures, on a bien mieux et tout, et à ce moment-là, la réponse est de dire, ben, allez-y, hein, faites la démonstration que vous êtes capable de faire mieux, et là, on est dans un processus vertueux. Donc une fois qu'on a ces bilans de base, on va dans un deuxième temps, on mesure la dette écologique dans cet écu, hein, cette unité de capacité, de capabilité. Ça n'existe pas vraiment en français, mais j'aimerais bien promouvoir ce néologisme. C'est un petit peu plus que la capacité. Hein. La capacité, c'est ce qu'on observe à un moment donné. La capabilité, c'est le stock plus la promesse. Hein. Il y a cette dimension d'option, d'opportunité qui est présente là. Donc voilà cette donnée. Je n'ai pas mentionné hier que ça, c'est un écu du Dauphiné. J'aurais dû le dire. Je n'ai pas été assez opportuniste. Là, je le suis aujourd'hui. Donc c'est un écu du Dauphiné. Et si vous regardez dessus, en plus, c'est fantastique. Hein. C'est très beau. Il y a un animal qui est en plus à moitié un poisson, à moitié un mammifère, si je puis dire. Moi, je suis statisticien, donc les biologistes ne seront pas contents. Mais vu de loin, on peut penser que c'est un poisson. Et en fait, c'est un dauphin. Bien sûr, c'est le Dauphiné. Et puis, il y a des fleurs de lys qui peuvent symboliser la végétation, si on veut bien.
C'est pas le lien entre l'Isère et le Drac, justement, on retrouve une notion sur les sculptures à Grenoble, d'un animal et d'un serpent. Le lien entre l'Isère et le Drac.
C'est possible. Je n'ai pas approfondi. J'étais très, très, très content de trouver cette image. C'est de François Ier, en plus le roi qui a organisé la France. Donc, il n'y a pas trop d'anglais aujourd'hui. Les Anglais sont furieux avec ça pour une raison très amusante. C'est qu'ils ne supportent pas que l'on nomme les choses avant eux. Ils ont le droit de nommer. Et le fait que ça s'appelle écu, le fait de faire ce calcul, ça gêne personne, hein, ça suscite de l'intérêt, mais que ça s'appelle écu avec un truc français, alors là, c'est vraiment très dur. Mais ça, c'est bon, ça vaut la peine de continuer. Donc l'idée, c'est de calculer, en fait, vous connaissez les principes, je ne sais plus, ça existe toujours, la surface corrigée des appartements, hein. Vous avez des données de base, puis vous regardez s'il y a des attributs positifs, négatifs, des avantages, et à ce moment-là, vous avez votre mesure de base qui est corrigée. Donc là, l'idée, c'est d'arriver à corriger le carbone, des impacts sur l'eau et des impacts sur la biodiversité, pour faire court. Alors, je reviens sur ce modèle. Il y a par derrière, hein, ceux que ça intéresse, il y a des tableaux Excel détaillés où on peut refaire les calculs soi-même, on peut faire des calculs, on peut s'essayer. Donc, la manière dont ça fonctionne, il y a les bilans de base, donc je ne vais pas les détailler. Et ensuite, on va faire on fait les comptes en écu. Et en fait, on va décrire la dégradation comme un changement de prix en écu. En fait, ça revient à faire ça d'un point de vue comptable. Donc on a le prix au début de l'année, c'est comme ça qu'on peut commencer la séquence de compte. On sait ce qui s'est passé avant. Et on va regarder donc quelle est la valeur du stock initial, qui est la valeur du stock à la fin de l'année précédente, donc qui est le bon stock au 1er janvier, et on le calcule au prix de l'année précédente parce qu'on n'en connaît pas d'autres. C'est, ça semble logique. Alors, ce qu'on voit toujours, hein, la dernière colonne, la plupart des, on ne sait pas additionner les données physiques. Ça, il faut, c'est pour ça qu'on est obligé de faire cette gymnastique. Donc, on va calculer un indice composite qu'on va appeler un prix. On le fait séparément, d'abord pour le carbone, pour l'eau et pour l'écosystème. On va regarder quelle est l'intensité d'utilisation. Si l'intensité d'utilisation est, je ne sais plus comment ça marche, enfin, ou l'inverse de l'intensité d'utilisation, ça doit être moins que 1 ou plus que 1. Enfin, ça dépend comment on calcule l'indice. Je pense que c'est l'inverse. C'est le surplus sur l'utilisation. Hein, donc c'est l'inverse. Donc ça doit être moins que 1. Si c'est bon ? Oui, ainsi, non, plus que 1. Plus que 1. Si l'utilisation est plus grande, donc on passe en dessous de 0. L'idée, c'est d'avoir un indice qui bouge comme un prix, hein, où quand c'est meilleur, c'est plus cher. Quoi, hein. Donc, 100%
égale
0. 100% égale 0, et ça veut dire que ça va. Hein,
c'est juste.
Oui. Mais quand on a fait ça, on n'a pas tout vu. Hein, parce que, par exemple, quand vous coupez des arbres, si c'est dans une forêt qui a 2 siècles, hein, vous allez produire du bois, hein, peut-être de bonne qualité, mais c'est du bois. Si c'est dans une plantation récente, vous allez produire du bois aussi. Ça n'a pas la même valeur, en fait. Hein. Ça n'a pas la même valeur, parce que vous allez consommer du temps dans une forêt ancienne. Et dans une forêt récente, vous allez consommer beaucoup moins de temps. Et si vous consommez des productions agricoles, vous allez consommer très peu de temps, sauf si vous dégradez le sol, parce que le sol, ça prend du temps à se reconstituer. Donc il faut qu'on arrive à voir ces autres éléments qui sont dits qualitatifs, et donc faire un petit panier d'indicateurs. Ce panier, nous, on le fait avec ce qu'on a. À l'évidence, si les comptes sont faits par d'autres, le panier sera fait différemment. Hein, le problème, c'est l'objectif. Hein. Qu'est-ce qu'on veut mesurer ? Donc on veut mesurer ces effets qualitatifs. Dans le cas de l'eau, bon, il y a des problèmes de qualité de l'eau. Pour les services systémiques, à l'évidence, la biodiversité va être un élément très important du calcul. Hein, on regarde l'intégrité des systèmes, la fragmentation, l'intégrité et la biodiversité. Donc tout ça peut se décliner, chaque boîte peut s'ouvrir et peut faire l'objet d'un programme de recherche ou mieux de collecte d'informations pour produire l'indicateur. Alors après, on peut trouver des méthodes pour combiner. On a discuté pas mal. Comme c'est conventionnel, le mieux, c'est quand même de bien comprendre comment on fait. Hein, donc de ne pas faire des choses trop compliquées. Hein. On peut imaginer des formules mathématiques un peu sophistiquées, mais le risque, c'est que l'utilisateur ne comprendra plus rien et va devoir juste accepter une mesure. Si c'est plus simple, il y a la possibilité de remonter, hein, aux sources et de voir comment c'est fait, éventuellement de modifier. Donc même chose pour le prix en écu. Et donc on refait, à ce moment-là, le prix en écu, on va l'appliquer à l'ensemble des stocks. Ça a un sens pour chacun des stocks. Hein. On a un prix en écu de l'eau. Hein. C'est l'eau qu'on peut utiliser sans dégrader le carbone et la biodiversité, ou la biodiversité sans dégrader le carbone et l'eau, etc. Mais on est toujours embarrassé parce qu'on ne peut pas additionner les trois. Hein. Même si on a un prix commun, c'est trois entités qui sont... l'écosystème, il est un. Hein. C'est tout ça à la fois. Donc on ne peut pas additionner ces composantes. Et donc il faut en choisir une pour structurer le compte. Et donc l'idée, c'est de prendre la biomasse, parce que c'est la variable la plus générale. On peut imaginer d'avoir une comptabilité des paysages. On avait pensé prendre les paysages d'abord comme base, mais le problème, l'objection, c'est il y a des paysages qui produisent beaucoup de nourriture et des paysages qui ne produisent pas beaucoup de nourriture. Donc si on veut faire une comptabilité comme ça au niveau global, on manque quand même une dimension importante. Voilà la logique, c'est conventionnel, ça doit être discuté encore, ça doit être accepté pour fonctionner, hein. c'est faisable. Hein. Donc j'hésite à dire que c'est pas compliqué, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a fait remarquer que quand on dit que c'est pas compliqué et que l'interlocuteur ne comprend pas, on se crée potentiellement des problèmes, donc c'est compliqué. Voilà. Mais c'est, on peut passer un petit peu de temps, on peut arriver à voir comment ça fonctionne. C'est pas des grandes mathématiques, disons. Alors, un point qui est important, c'est que ça, c'est un module. Hein, c'est un module qui peut s'appliquer à n'importe quelle échelle, pour n'importe quel écosystème. Ce module, il est, pour toutes les utilisations, il est connecté aux statistiques. socio-économique, hein, à la stat agricole, forestière, à la comptabilité nationale. Il est complètement connecté du point de vue de l'utilisation. Et la comptabilité environnementale aujourd'hui, traditionnelle, c'était ça. Hein, c'était de regarder les utilisations, combien par l'économie, et de calculer des indices d'efficacité d'utilisation des ressources du point de vue de l'utilisation, ce qui est très incomplet. Donc on connecte aussi, c'est aussi connecté du côté des impacts de la dégradation. Donc ça, c'est un plus qui est important. Il y a une discussion avec la Commission pour leur dire votre indicateur d'efficacité d'utilisation des ressources, il est très incomplet, merci, il est très incomplet parce qu'il ne prend pas en compte les impacts des ressources. C'est pas le problème, ce n'est pas simplement d'utiliser de l'eau ou d'utiliser du carbone, hein, c'est de savoir si on peut se le permettre ou pas. Hein, parce qu'on en a besoin. Il y a quand même beaucoup de monde sur la planète. Les gens ont droit de vivre. Hein, et donc, la mesure des impacts, c'est fondamental. Hein, pas seulement de savoir si technologiquement, le système industriel consomme en proportion moins d'unités de ressources par unité de produit intérieur brut. Mais aussi, c'est des comptes donc, qui peuvent être déclinés pour toutes sortes d'échelles, hein, pour des zones, des régions, des zones administratives, des bassins versants. Hein, on peut établir un compte complet à différentes échelles. À chaque fois, donc, avec les données les plus appropriées et un objectif commun de mesure. Donc si on est capable de faire cette mesure, on va commencer à mesurer les dettes écologiques. Et les dettes écologiques, c'est un sujet dont on parle depuis longtemps. Il y a eu même une conférence il y a 8 ou 10 mois qui était avec plein de gens importants qui étaient là. Et la conclusion, c'était que ouais, mais on ne sait pas très bien ce que c'est. Hein, on sait que c'est un vrai problème, mais on ne sait pas comment le mesurer. Ce serait important de mesurer les dettes écologiques. On sait que, par exemple, que l'Europe a une grosse dette écologique vis-à-vis de l'Afrique, parce qu'on a exploité massivement au XIXe siècle, hein, et puis après. Et puis en même temps, l'Afrique a une grosse dette financière acquise dans les années 70-80. Alors on pourrait imaginer, si on avait une mesure des dettes écologiques, de dire, tiens, ben, faisons un échange de dettes, hein, comme ça, on remet les compteurs à zéro. On peut imaginer des tas de choses. On peut imaginer de faire payer des intérêts sur ces dettes écologiques. On peut imaginer des mécanismes de compensation. Donc c'est quelque chose qui est potentiellement très, très opérationnel. Et donc la condition pour ça, c'est que ça soit compréhensible, la façon dont c'est calculé, que ça soit vérifiable, hein, parce que bien entendu, les conséquences peuvent être très, très importantes. Alors, je vais terminer par quelques résultats, et vous essaierez de... Alors, non, vous ne pourrez pas voir la région Rhône-Alpes partout, parce que je n'avais pas les données avec moi là. Donc, voilà, ça, c'est une des cartes, hein, du compte du carbone, c'est le bilan net de carbone de l'écosystème. Alors, ce que ça montre, en gros... les données sont... Coussi, coussa, on était très surpris de la difficulté à trouver des bonnes données au niveau international, européen, sur la production primaire nette. Il y a des satellites, il y a eu des gros programmes et tout ça. Le travail n'est pas fait de manière à ce qu'on puisse utiliser en comptabilité. En comptabilité, on a besoin que ça soit très cohérent, très homogène, et on a besoin que ça soit homogène dans l'espace, ça soit homogène dans le temps, parce qu'on est intéressé à suivre les changements. Alors, très souvent, on a un programme une année, un programme une autre année, c'est pas fait de la même manière. Il y a des données très, très pointues sur un ensemble de sites qui sont mesurés, et c'est pas connectable aux statistiques agricoles. Nous, ça, c'est fait avec des statistiques agricoles aussi. Hein. C'est du satellite et des statistiques agricoles. Donc, après, on doit justifier les résultats, on va se retourner vers les pays qui ont fourni leurs données à Eurostat. Hein. Donc c'est très important, parce que si ça doit être utilisé politiquement, il faut que ça soit contrôlable. Et ce que vous voyez ici, ce qui est en orange, ça c'est en fait des serres en plastique. Donc il faut qu'on corrige l'indicateur, parce que c'est de la NPP qu'on ne voit pas, parce qu'elle est sous serre. Ce que l'on voit en rouge, et là on est assez content de l'indicateur, c'est là où il y a eu des coupes de bois. Et on arrive à le voir avec l'indice de végétation qui est observé par les satellites. En regardant la différence entre deux années. Hein, on élimine un effet du changement de la météo, hein, du climat sur l'une année sur l'autre. Et quand on a une chute de l'indice de végétation sur une forêt, on a la carte des forêts, quand on a une chute de l'indice de végétation, c'est soit un feu, soit une coupe de bois. Hein. Il n'y a pas 50 000 choses qu'ils peuvent obtenir. C'est en général des variations assez brutales. Ce qu'on voit sur ces valeurs-là, c'est que c'est des situations d'agriculture intensive. Hein. Les Anglais produisent beaucoup de betteraves. Hein. C'est bon pour avoir des subventions européennes. Ce n'est pas bon pour les sols. On voit aussi ces verts clairs et tout ça, c'est des situations limites. Alors, est-ce que c'est une situation de perte de carbone des sols? C'est là qu'on a besoin de la recherche pour dire, et la recherche à l'INRA, qui est très, très avancée sur ça, nous dit « oulala, c'est difficile à mesurer hein ». Mais il y a en général un certain consensus sur toutes ces zones pâles, sur le fait qu'il y a une perte de sol. Et donc on est dans une situation très dangereuse, hein, qui est de quasi-irréversibilité. Et probablement, on voit qu'il y a une agriculture qui est jaune ou en vert très, très clair, et puis qu'on va trouver une agriculture qui est dans des situations différentes. Et du point de vue du bilan carbone, c'est des éléments de contexte très différents. On fait les comptes de l'eau. Alors les comptes de l'eau par rapport aux comptes de l'eau traditionnels, on a intégré la dimension qualité au mieux qu'on peut avec les données fournies par les États pour la directive cadre sur l'eau. Et aussi, on essayait de voir des facteurs de risque hein, avec l'occurrence de sécheresse. Si vous investissez dans de l'irrigation, alors que vous savez que tous les 10 ans, vous allez avoir une sécheresse sévère, ça veut dire que vous allez avoir un problème dans l'agriculture sévère tous les 10 ans. Donc ça, on peut l'observer. Vous voyez cette carte qui a été faite par un jeune de l'agence européenne qui faisait sa thèse là-dessus. C'est avec des données quotidiennes, hein, mesurer l'humidité du sol. Alors, ces données, en principe, sont des données qui sont disponibles. C'est-à-dire que si vous êtes intéressé par ces données pour une application régionale, c'est pas nécessaire de tout recalculer. Hein. Il faut commencer par faire l'inventaire de ce qui a été fait. Il y a des choses qui ont été faites au niveau européen qui sont peut-être suffisantes. Hein. Vous n'avez peut-être pas envie d'aller voir plus loin. Et à ce moment-là, vous pouvez demander les données à l'agence pour commencer à remplir vos bases de données. Biodiversité, paysage. Donc on a un indicateur qui fonctionne bien, dans lequel on a eu une validation scientifique par, je sais pas comment dire, une espèce d'habitude. De voir les cartes. Au début, il y a eu des hauts cris quand on a produit cet indicateur. On avait besoin, on fait des comptes de la couverture des terres. Mais ensuite, on a besoin de résumer ça. Donc, si vous avez plus d'agriculture, moins de forêt et tout, qu'est-ce que ça donne si vous avez besoin d'un chiffre à un moment donné. Donc on a commencé à résumer. On a dit, bon, on va mettre quelques notes très simples, hein, comme fait un professeur qui note des étudiants. Hein. On met des notes, on met un pour l'écosystème urbain, 10 pour l'agriculture intensive, 50 pour les paysages d'agriculture mélangée, les pâturages, et puis 100 pour ce qui est naturel. Une grille conventionnelle très simple. On a testé pour voir ce que ça donnait. Alors, il y a eu des discussions, parce que bon, les forêts, on sait bien qu'il y a des plantations d'eucalyptus. Bon, on n'avait pas l'information pour faire ça. Et puis avec le temps, on s'est aperçu que cette carte, elle était pas mal. Alors il lui manquait des choses. En particulier, il fallait prendre en compte la fragmentation des paysages. Et donc on a une très très bonne carte de fragmentation. Ça aussi vous pouvez récupérer. C'est des données qui sont récupérables à l'agence. Et donc on a combiné cette carte du paysage vert comme on l'appelait avec une carte de fragmentation. Et on a une carte qui est intéressante et qui a commencé à être utilisée. Et les gens reconnaissent le paysage. Donc la validation ne va pas au-delà, mais les gens, hein, les scientifiques hein, reconnaissent le paysage. Et donc on peut commencer à observer les changements. Donc voilà la situation 2000, on l'a pour 90, 2000 et 2006, on a fait ce qu'on appelle, je sais pas comment on dit, du no-casting. On avait des données 2000, on avait pour 2000, on a 2006, hein, et les années manquantes, on a fait un petit peu de mise à jour, un petit peu de modélisation. Donc vous voyez un petit peu, on commence à détecter. Hein, toutes les régions ne bougent pas de la même manière. Hein, donc c'est d'un point de vue européen, c'est intéressant. Alors, vous voyez les changements par pays, même. Hein, vous avez les Tchèques, ils ont eu une grande réforme agricole, en fait. Hein, ils ont réduit considérablement leur production. dans les montagnes, ils ont subventionné les paysans pour faire des prairies. Alors comme on met un facteur 10 à l'agriculture intensive et un facteur 50 aux prairies, donc du coup, ils ont leur valeur ont bien augmenté. On peut changer les facteurs. À mon avis, on aura en gros le même genre de classement à la fin. Ça sera c'est pas des valeurs absolues. Alors on voit qu'il y a des situations négatives. Donc c'est ce que ça permet. Le calcul est fait par maille kilométrique. C'était la carte que je vous ai montrée. C'est celle-là. Hein. Donc on part d'un niveau qui est quand même assez détaillé pour l'analyse. Alors maintenant, la biodiversité, donc ça c'était un grand sujet de polémique, la biodiversité c'est très compliqué. On ne fait pas des comptes de la biodiversité, bien entendu. Hein. La biodiversité qui compte, hein, c'est toutes les petites bêtes qu'il y a dans le sol et qui nous permettent de vivre. Hein. C'est plus important que l'ours ou le tigre blanc. Hein. C'est toute cette microfaune et tout, les décomposeurs, hein, qui permettent le recyclage des nutriments et la vie. Et ça, on ne sait pas en faire le compte à proprement parler. Ce qu'on cherche à voir, donc là aussi, c'est des indices de changement de la biodiversité. Est-ce que ça s'améliore, ça se dégrade? Alors c'est pas simple avec les données qui remontent au niveau européen. La première enquête systématique pour l'Europe, c'est ce qu'ils appellent l'article 17 de la directive Habitat, qui a obligé les pays à fournir des indications sur le passé. Sur les zones de répartition, sur l'occupation des zones de répartition, sur les populations. Donc c'était des avis d'experts soutenus par les observations disponibles dans les ministères d'environnement. Donc il y a des comités scientifiques, il y a des ministères, des gens qui sont en général compétents, responsables, et qui ont fourni des données qui sont terriblement hétérogènes pour toute l'Europe. Hein, vous voyez qu'en général, de manière systématique, on voit par exemple que la France est un pays dépressif et que l'Allemagne est un pays optimiste. Ils ont des données qui sont bonnes. En réalité, probablement, c'est un peu moins contrasté. Hein. Mais on sait que la France est un pays dépressif. C'est incroyable de voir ça révélé dans un indice sur la biodiversité. Donc on a utilisé ces données un peu comme on fait une enquête psychologique. Hein, en disant que ce n'est pas de la modélisation de données qu'on est incapable de faire, en fait. Hein. On regarde ce que les gens qui savent expriment. Et à partir de là, on essaye d'avoir un indicateur qui va nous dire si la situation se maintient ou se dégrade, de manière à pouvoir faire notre compte. Alors, voilà ce que ça donne.
Les Espagnols sont plus proches des Allemands que des Français ?
Pardon ?
Les Espagnols seraient plus proches des Allemands que des Français pour leur optimisme ?
Non, ils sont... alors, ça fait pas... non, mon impression, c'est que les Espagnols étaient... Alors maintenant, ils seraient probablement beaucoup plus proches des Français, mais ils étaient déjà un petit peu dépressifs à l'époque. Et là, ça se voit moins parce qu'il y a eu des stratégies de réponse. Il y a des pays qui ont cherché à fournir un maximum de données. Il y a des pays qui sont concentrés sur les données les plus sensibles, sur les espèces les plus sensibles. Donc il y avait une liste théorique qui varie d'une région à l'autre, hein, bien entendu. Il y a où il n'y a pas l'espèce. Il y a 1200 espèces qui ont été suivies, hein, ce qui est quand même un nombre assez important qui permet de faire de l'analyse statistique. Alors il y a des contrastes qui sont exagérés, mais encore, ce qu'on cherche à voir, c'est en termes d'évolution. Puis il y avait un reporting qui était intéressant sur le futur. Alors ça, c'est sur le passé. Hein, c'est les populations, c'est les tendances observées. La population était probablement le mieux renseignée. Hein, on travaille avec nos experts hein, qui sont assez bons. Et voilà ce qu'on dit sur le futur. Donc voilà la France. Hein, on est quand même... On est marrant. Hein. Mais c'est deux indicateurs qui sont... C'est très intéressant, parce que ça n'avait jamais été fait. Hein. On a une vision. Et ça, c'est fait. On est reparti sur une modélisation. Il a fallu qu'on fasse beaucoup de charcutage de données, mais sur la maille kilométrique. Mais voyez les indications par pays. Et donc, il y a quand même des contrastes qui sont assez importants sur les tendances. Hein, on voit comment ça se passe, les pays où ça s'améliore, les pays où ça se dégrade. Donc, c'est des données qui sont à améliorer. Et là, vous serez dans une application régionale et dans des conditions... c'est pas comparable. Hein, c'est pas comparable. Parce que là, il y avait cette contrainte. Regardez, c'est assez intéressant si on voit l'agrégat européen hein, de cet indicateur par type d'écosystème. Les forêts, c'est tout bon. Les zones humides, c'est tout bon. C'est plutôt bon pour l'ensemble de l'Europe. Hein. C'est pas un gros changement, mais quand même. On interprète ça comme un changement sur 10 ans, hein, puisqu'on avait le passé, le futur. On avait le point central, juste. Hein, on a une pente. Et où ça va, l'urbain, on ne sait pas quoi dire, parce qu'il n'y a pas de reporting sur l'urbain. Il n'y a en gros rien. Hein. On a attrapé des choses un peu par hasard. Par contre, où ça ne va pas bien, c'est sur l'agriculture, hein, sur la biodiversité. Et ça, c'est l'agrégat européen. Alors, après, il faut regarder par région, mais on a toutes les données sont observables et critiquables. Hein. J'ai présenté ça au point Foucault national de l'agence. J'aurais dit, maintenant, vous allez avoir les données. S'il vous plaît, vous nous critiquez. Hein. On a besoin de ça. Alors, si on intègre le paysage et la biodiversité, on arrive à une première mesure de capacité ou de capabilité. Et vous voyez comment ça. On a des évolutions qui sont significatives. Hein. Donc, on a les comptes de l'eau, on a les comptes du carbone. On n'a pas encore. Il y a une dernière validation des données. On va les intégrer pour calculer les écus. Donc, on a une information qui est. Voilà, je pense que j'ai à peu près épuisé mon temps de parole. Et au-delà, je vais terminer avec ça, donner une petite idée des données locales qu'on peut avoir donc sur la maille kilométrique. Ça, c'est le potentiel écologique, hein, l'intégrité du paysage sur la plaine du Pô. C'était assez beau. On voit que ça, c'est très fragmenté, hein, très intense. Non, j'ai pas de changement. Le changement, ça, c'est la carte du changement entre 2000 et 2010. Donc vous avez des dégradations, vous avez des améliorations. Donc ça se mesure pixel par pixel. Voilà l'indice de la population, article 17. Donc c'est la situation, l'observation du passé. Et voilà l'observation du futur. Donc ce que c'était et ce que les spécialistes pensent que ça va être. Hein. Donc même avec des données européennes horribles, extrêmement imparfaite, hein, c'était donné dans une maille kilométrique, c'était même pas standardisé selon les pays et tout. On a fait du rééchantillonnage de manière logique. On avait des données d'appariement des espèces avec des types d'écosystèmes, donc on a utilisé tout le système d'information géographique pour faire ça. Et donc on peut mesurer les changements de la capacité entre deux dates. Donc là, on est quasiment... c'est le degré zéro d'une approche régionale. Hein, donc voilà à peu près ce qui va être disponible. Donc, bon. Merci. Merci.